Donc, tu as pris au sujet justement des élections entre prussiennes et puis après pro-françaises. Moi, je parlais plutôt de légalisme. De l'adversaire était légaliste. Je préfère ce terme que autoritarisme. Parce qu'autorité, c'est légal. Et là, je reviens justement sur le début de l'occupation allemande en 40. Par exemple, les fonctionnaires, ils ont tous été remplacés par les Prussiens. Moi, je préfère utiliser, disons, nazis.
C'est les voisins.
D'accord. J'avais une tante qui était pharmacienne à Strasbourg. Quand quelqu'un, un Allemand, parce qu'ils arrivaient les Badois, quand un uniforme, n'importe quel, militaire ou SA ou n'importe quoi, qui rentrait, il fallait que les clients qui étaient à l'intérieur fassent de la faillite. D'accord. Donc c'est déjà... Oui. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Et quand je lis dans le journal, l'Alsace a été occupée pendant la guerre. Non, elle n'a pas été occupée, vous la précisez. C'est contre l'absolu pas vos paroles. Vous voyez, mais on ne dit pas que justement, qu'on était assujetti justement à l'administration nazie. Et ça, on ne le spécifie pas tellement. Et, oui, oui, mais je vous le dis, entre dire on se met dans un coin quand il y a un nazi qui rentre, non. Il fallait rester debout et dire à Hitler. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que quand on a une volonté. Oui. On se met dans le coin et puis on dira, mais là, c'était obligatoire. Et maintenant, je voudrais parler au sujet de M. Strauss, au sujet de l'abandon de l'Alsace. Il y avait quand même des prémices. Par exemple, M. Paul Stellin, il était attaché militaire à Berlin. Il a écrit un livre de souvenirs. Il a envoyé des documents, des rapports à Paris. Il savait ce que faisaient les nazis. Les autorités savaient ce que les nazis. Le 7 mars 1936, il y a eu la réoccupation de la Rhénanie par les forces de l'Allemagne. Alors qu'il y avait en 1918, la grande promesse de l'État français, c'était plus jamais le canon ne tonnera sur Strasbourg. C'est pour ça qu'il y avait l'évacuation militaire de l'Allemagne. L'État français a protesté, mais n'a rien fait. Et au sujet du 14 juillet 1939, je crois que c'est vous ou quelqu'un, un historien qui avait écrit un article dans le journal il y a quelques années, vous avez dit que c'était le plus grand défilé militaire pour dire on ne vous abandonnerait jamais, on ne vous abandonnera pas. D'accord. Et bien, qu'est-ce qui a été la drôle de guerre, ouais. Mais je ne dis pas que l'État français n'a pas son travail, c'est une façon de dire. Mais ce qui est arrivé après avec Oradour sur Glane, c'est ça que je n'accepterai jamais. Et Pierre Puymelin aussi, il a écrit le livre de mémoire. Il le dit aussi que lui, il était chargé de mission par l'État français en Allemagne. Il a fait des rapports. Il le savait tous ce qui s'était passé, ce qui allait arriver. Et après la guerre, et ça qui est terrible, je ne parle pas de la guerre, les effets de la guerre, mais après la guerre, tout ce que l'Alsace a subi, ça qui est terrible. Je vous remercie.
Oui, en ce qui concerne, il ne faut pas confondre les choses. C'est pas l'Alsace qui a été abandonnée. L'Alsace ou la Moselle, d'ailleurs. Je suis Mosellan d'origine. C'est pas l'Alsace et la Moselle qui ont été abandonnées. C'est la France qui a été abandonnée essentiellement par un haut commandement militaire qui a été incapable de comprendre les informations dont il disposait sur la modernisation de la stratégie opérée par les Allemands. Je crois que c'est là la grande responsabilité, mais c'est une responsabilité qui ne concerne pas seulement l'Alsace et la Moselle, mais qui concerne toute la France. Qui aurait fait que 1,5 million de soldats, 2 millions au départ d'ailleurs, 2 millions de femmes ont été faits prisonniers par les Allemands. C'est quand même invraisemblable comme histoire.
Et je vous lis Marc Bloch, son bouquin, Une étrange défaite.
L'étrange défaite.
Tout est dedans.
Alors que la France avait un semblant d'explication, c'est que la France, en 1939, n'était pas guérie de l'énorme saignée qu'avait été pour elle la guerre de 14-18. Ça, c'est considérable comme effet.
Alors, je voudrais revenir sur ce thème. Ça rentre dans mon les préoccupations du début, de ce thème de la France coupable, responsable et coupable d'avoir abandonné l'Alsace et la Moselle, il faut aussi savoir qui porte ces accusations. Parce que ça rentre dans le cadre de la polémique politique. Jusqu'à nos jours, j'ai entendu beaucoup de dirigeants, et tu as signalé André Borde, il l'a dit à plusieurs reprises, mais je lui pardonne, il ne connaît pas l'histoire. Il ne sait pas que, en fait, le réarmement a commencé après le Front Populaire, après les crédits demandés par les Hongrois, alors qu'avant les crédits étaient diminués, sans compter qu'il y a le problème de la saignée de 14-18. On a fait la politique de la démographie. La ligne Maginot, c'est la politique de la démographie française. Hein, on se met dans des trous parce qu'on n'a pas les moyens de faire des grandes invasions territorialement. Bon, bref, je veux dire que c'est une polémique politique, la droite ayant tendance jusqu'à nos jours à dire « Ah, c'est le Front Populaire, n'est-ce pas, qui a fait que la France ne s'est pas défendue. Ils ont fait des mesures sociales, ils n'ont plus fait d'armement. » C'est le contraire. Hein. C'est tellement le contraire que la France était particulièrement bien armée, sauf l'aviation et le commandement. Il faut quand même savoir qu'il y avait je ne sais plus combien, il y avait moins de chars que les Allemands, mais c'était des vrais chars. Les Allemands, c'était des petites chenillettes de rien du tout. Et ces chars étaient tout simplement restés sur les trains et répartis tout le long du front, depuis le nord jusqu'à Bâle. Alors que les Allemands avaient constitué, vous le savez bien, des compagnies de chars, c'est tout l'adresse. Au moment de l'armistice, les Allemands ramassaient des milliers de chars sur les trains. Bon, il y avait l'aviation, et c'est là le vrai problème, le stratégique. Mais, alors, cette accusation, je la récuse avec force, parce qu'elle est purement politique et idéologique, c'est mettre en porte-à-faux le Front Populaire. Il suffit de voir qui le dit.
C'est une question un peu complémentaire à rien à ce qu'on débat en ce moment. Parce que bon, ici en Alsace, normalement, on est tout près de l'Allemagne. Je me suis toujours demandé, bon, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, enfin, quelle a été la réception de l'opinion publique et des politiciens en Alsace à partir de 1933, parce que quand même 33-39, ça fait 6 années, c'est pas rien, ils lisent et comprennent l'allemand, ils écoutent la radio allemande éventuellement, ils entendent les discours de Hitler, etc. Donc est-ce qu'il y a des travaux d'historiens là-dessus, sur la réception alsacienne de ce qui s'est passé de l'autre côté? Bon, en plus il y a les réfugiés juifs, allemands, autrichiens qui viennent, etc., qui vont être internés en France et récupérés par les nazis dès qu'ils vont arriver, etc. Donc moi, parce que je me dis, non, et puis il y a eu tous les événements, bon, hein, effectivement les Sudètes, il y a eu Munich, compagnie, mais Hitler s'est pas tombé comme ça du ciel un matin. Hein, on l'a vu venir au moins pendant 6 ans, hein, à partir du moment où il avait le pouvoir, où il a dissous toutes les organisations de gauche et même de droite, ensuite et les syndicats, etc. Donc moi, ma question c'est ça. Ici en Alsace, comment c'est perçu? Comment, par exemple, le journal, les dernières nouvelles, en parle? Et j'ai lu, je précise une chose, j'ai longtemps cherché le livre écrit par Pierre Fimelin, jeune, et Laufenberger, voilà. Et j'ai pas réussi à le trouver. Et comme j'ai lancé un appel sur Internet, un jour, j'ai reçu un paquet, et quelqu'un m'a photocopié tout le bouquin. Hein, je sais plus le titre maintenant, mais c'est une étude remarquable, mais très intéressante idéologiquement,
sur l'économie
de l'Allemagne. Alors, en gros, il présente ça comme un truc corporatiste. Hein. Mais, c'est, alors, il y a une partie écrite par Fimelin et l'autre par Laufenberger. Laufenberger, d'ailleurs, il me semble qu'il a des enfants, et je me demande même si les enfants ne sont pas du côté, enfin, du mauvais côté, là. Parce que des fois, je vois ce nom, et je me pose des questions. Il y aurait une espèce de filiation, en plus, des idées d'extrême droite. Parce que le bouquin, je l'ai lu, je ne suis pas économiste, donc je ne me suis pas permis d'écrire dessus, mais on sent une sympathie non dissimulée pour cette Allemagne qui est en train de devenir une puissance économique, et ils disent, on devrait s'inspirer de ces méthodes-là pour la France. Hein. Ça, c'est M. Fimelin, jeune, hein, qui ensuite était juge d'instruction à Thonon et a jugé des juifs pendant le vichisme de l'État de Pétain. Voilà.
Oui. c'est évident. Il y avait en Alsace, bien plus que dans les autres régions françaises, de l'information en masse sur ce qui se passait en Allemagne. Les dernières nouvelles sont les Strasbourg-Nachrichten donnent beaucoup d'informations. Ceux qui en donnent le plus et qui sont d'ailleurs les mieux informés grâce à leurs correspondants de l'autre côté de la frontière et grâce aux réfugiés en Alsace, ce sont les journaux socialistes, c'est-à-dire la Freie Presse et la Presse Libre à Strasbourg et le Républicain à Mulhouse. Ce sont vraiment ceux qui donnent tout le temps des informations sur ce qui se passe en Alsace. Du point de vue scientifique plus écrit, il y a à l'Université de Strasbourg un centre d'études germaniques qui était autrefois situé à Mayence du temps de l'occupation dans les années 20, qui avait été créé à Mayence et qui organise des stages notamment pour les officiers des services de renseignement. Et beaucoup d'entre eux vont passer ainsi à Strasbourg et être très informés aussi sur ce qui se passait en Allemagne. Donc on ne peut pas dire que l'information manquait. Même la presse catholique, l'Alsace par exemple, parle de ce qui se passe en Allemagne, dénonce en particulier évidemment la persécution des églises, de l'église catholique. Évidemment, à partir de 1938 surtout, le journal de l'UPR du Haut-Rhin, c'est-à-dire l'Alsace à courir, dirigé par Rosset, lui, est beaucoup plus favorable au nazisme, parce qu'il va d'ailleurs se rallier au nazisme après avoir passé quelques mois en prison à Nancy. Donc, si on veut savoir, on sait. C'est vrai que Radio Stuttgart est plus écouté, vraisemblablement, en Alsace que Radio Strasbourg à l'époque. Donc, là aussi, les discours d'Hitler, on les a entendus, les hurlements d'Hitler, on les a entendus, ils ont fait peur à beaucoup de gens, c'est certain.
Quand même, les discours, comme vous dites, très bien, la radio Strasbourg a bien été en Alsace, mais aussi Radio Strasbourg qui faisait le contrat, qui fait le contrat. Mais disait, attention, le discours, il y a des critiques, hein. C'était je me demande encore maintenant, comme je l'avais vu, comment une telle radio a pu être aussi libre politiquement.
Radio Strasbourg avait recruté pour ses émissions en allemand. Des missions d'information des réfugiés allemands, anti-nazis, qui provoquèrent d'ailleurs des protestations violentes de la part du gouvernement du Reich et de l'ambassade à Paris. Et j'ai l'impression, mais je ne connais pas bien l'histoire des dernières années de Radio Strasbourg, entre 37-38, j'ai l'impression que le ton avait que. En particulier, un certain nombre de collaborateurs allemands avaient été, sinon licenciés, du moins éloignés de Strasbourg.
Je propose qu'on prenne une ou deux questions. Après, nous allons passer à table. Je vais t'inviter à prendre le café.
Moi, je voudrais poser une question. Nous sommes en 2011, et tout ce que vous avez raconté, évidemment extrêmement intéressant et qu'on tient comme à la prunelle de nos yeux et qui est essentiel pour nous comme référence, mais c'est quand même loin dans la mémoire d'un certain nombre de gens. Et moi je m'interroge avec, c'est vrai, tous les travaux d'historiens qui ont été faits avec un certain nombre même de manifestations publiques. Je pense, juste une petite parenthèse, à ce qui a été fait à Chiquicane il y a 2 ans, au moment d'inauguration du monument, où on a associé précisément les résistants, les victimes de Radour-sur-Glane et les déportés juifs. C'était une manifestation tout à fait belle et pas forcément de consensus, je tiens à le dire aussi. Mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que finalement, cette espèce d'ambiguïté des notables alsaciens, de ce passé qui est un passé compliqué, eh bien, il continue à... Cette ambiguïté continue à exister. Moi, je l'ai ressenti très violemment, je ne peux pas dire autrement, au mémorial. Parce qu'au mémorial, il y avait un certain nombre de choses qui ont été rectifiées depuis, mais qui, c'est vrai, hein, qui ont été rectifiées. On est intervenu aussi pour que ça soit rectifié. Mais il y avait Struthof en face et il y avait ce mémorial qui était vraiment très très ambigu, même dans sa façon de présenter la présence allemande. C'est-à-dire que quand un certain nombre de gens n'étaient pas vraiment initiés, ils pouvaient passer à côté de choses essentielles en ce qui concerne, par exemple, l'occupation nazie en Alsace, en visitant le mémorial. Et en particulier...
L'annexion, pas l'occupation.
Oui, oui.
Les mots sont importants.
De fait, et non pas la...
Oui, mais c'est pas pareil, hein.
Oui. Et donc, c'est vrai que je trouve que la classe politique actuellement, et nous disions tout à l'heure, eh bien le ni-ni, hein, qui vient de se faire de se manifester, pas forcément ici en Alsace, mais qui montre bien une certaine ambiguïté des notables qui sont au conseil régional, au conseil général, eh bien, il entretient finalement cette confusion qui aboutit à ce que des jeunes cons, enfin je ne peux pas dire autrement, fassent aillent ensuite dans les cimetières faire des choses qui sont des actions de décervelés, enfin, et qui n'ont pas forcément, bien sûr qu'elles ont, on a retrouvé des drapeaux nazis, etc., chez les uns et les autres, mais il y a chez eux des cons, c'est surtout la confusion. Et cette confusion, on ne l'a pas levée. Et tant que cette confusion n'est pas levée, eh bien, justice et liberté, on a beau y être, je trouve qu'on n'avance pas. Et des résultats comme celle des cantonales, eh bien, moi, me désespère, enfin, je ne peux pas dire autrement. On n'a pas avancé d'un poil.
Vous êtes invités à partager le café avec Justice et Liberté. On est là.